Polysécur, épisode spécial, je s'accompagne de Renaud. Comment vas-tu?
Ben bien, merci. Et toi?
Très bien aussi. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que pour ceux qui vivent en dessous d'une roche, ne connaissent peut-être pas toute ton histoire.
Oui, ben, tu sais, c'est rien d'extraordinaire. Je m'appelle Renaud Deraison. Je suis l'auteur de Nessus, un scanner de vulnérabilité développé il y a presque 30 ans. Et le cofondateur d'une société qui s'appelle Tenable, qui fait de la gestion de vulnérabilité, dans laquelle j'étais CTO jusqu'à il y a à peu près 5 ans.
Intéressant. D'ailleurs, puis on va commencer sur le bout justement sur ça, parce que pour moi, comme professionnel en cyber, Nessus a forgé mon début de carrière il y a maintenant 30 ans, où c'était l'outil principal qui a servi. Fait que juste de faire un petit rappel pour ceux qui maintenant sont jeunes et n'ont pas vécu toute cette histoire-là, juste de faire un rappel de ce que c'est.
Oui, alors tu sais, dans les années... Donc Nessus, ça a été écrit dans les années 98. Enfin, 98, c'était la date de sortie. Et à l'époque, tu dois t'en souvenir, la communauté de la sécurité était beaucoup plus petite et beaucoup moins organisée. Et en fait, à l'époque, moi, j'étais assez passionné de... J'ai découvert, en fait, le réseau Internet toutes ces années-là et le concept qu'un ordinateur puisse parler à un autre ordinateur au bout du monde, je trouvais ça formidable. Donc, je suis tombé dans le monde de la sécurité. Et à l'époque, quand il y avait des problèmes de sécurité dans des serveurs web, Apache, dans Bind, etc., en fait, ils étaient publiés sur BugTrack, qui était une mailing list à l'époque. Et c'était...
Que de souvenirs.
Exact, tu vois, on fait vraiment un retour. Et en fait, et puis c'était un peu... BugTrack, je crois qu'il y avait 20 000 abonnés, et qui étaient un peu les OG, comme on dit, de la cybersécurité. Et chacun, en fait, lisait le mail en disant « Ah, il y a une faille dans Apache, il faut que je mette à jour. Quels sont mes serveurs qui ont Apache et je vais les mettre à jour ?» Et en fait, donc moi, j'étais assez jeune à l'époque, hein, puisque avant Nessus, donc j'avais 16 ans. Et je cherchais, comme bon geek de l'époque, je cherchais un projet. Et je me suis dit « Bah, je vais faire un scanner de vulnérabilité. » Ce n'était pas le premier, hein. Il y avait Satan à l'époque qui est vraiment l'ancêtre. Mais je me suis dit, je vais faire un outil qui va scanner des adresses IP pour énumérer les ports, et sur chaque port, on va identifier des problèmes de configuration, les patchs qui manquent, etc. Et donc, j'ai sorti Nessus, donc mi-98. Il y avait à l'époque 50 tests de sécurité. Et à ma grande surprise, puisque je pensais que je le sortirais et puis que je passerais à autre chose, à ma grande surprise, j'ai eu un retour utilisateur incessant. Et je l'ai développé très longtemps. D'abord en open source et ensuite en produit commercial.
Oui, ben ça, moi, ça l'a forgé ma carrière à ces années-là. Justement, j'étais déjà dans le domaine en 98, ce qui nous rajeunit pas, hein, n'est-ce pas? Et justement, à la fois, on est tout cet univers de BugTrack qui nous ramène. Et effectivement, comme tu parlais, il y avait Saint aussi à la même époque avec Satan. Puis bref, ce vieux monde-là d'outils qui était un peu... Puis justement, pour mon expérience, Nessus a amené de l'ordre dans le désordre, là, dans l'absolu, puis éventuellement avec les plugins et tout ce que ça l'a permis après. Maintenant, on avance, tes projets ont changé, là, il y a d'autres choses. Puis justement, j'ai l'avantage de l'avoir en primeur sur le discours de fermeture du Styx, mais comme ça va être diffusé plus tard, les gens n'auront pas cet même avantage que moi, fait que je vais juste voir ton nouveau projet, où tu es rendu, comment les choses avancent et comment ça se passe.
Super. Juste avant qu'on en parle, ce que tu dis sur le... Tu as commencé avec Nessus. En fait, ça me touche vachement parce que quand on a fêté les 20 ans de Nessus, mon équipe marketing a fait un truc que j'ai trouvé formidable. Ils sont allés à... C'était à RSA. Et en fait, ils ont fait un micro-trottoir auprès de tous les attendees. Et ils leur disaient, pour vous, Nessus, qu'est-ce que c'est? Et en fait... Ça m'a beaucoup touché de voir le nombre de personnes qui ont dit exactement ce que tu as dit. Nessus, j'ai commencé. C'est un peu ce qui m'a mis le pied à l'étrier en cybersécurité. Et en fait, c'est intéressant parce que je trouve que c'était un peu un jouet interactif. C'est-à-dire qu'on lui donne une machine, on n'est pas expert en cybersécurité, il va dire « Ah ben, on a mal configuré, telle chose est mal configurée ». En fait, c'était une manière d'apprendre. « Ah bah tiens, en fait, Apache, on configure comme ça, Bind, on configure comme ça ». Et ouais, ça me touche toujours beaucoup de voir des gens qui... De savoir que j'ai été... que mon produit a été une étape dans leur carrière. Donc ça, c'est vraiment cool.
Oui, ben c'est ça. Ça l'a forgé ma carrière. J'étais déjà un peu dans le milieu, ça ne m'a pas mis le pied dans l'étrier comme peut-être plusieurs autres, mais avec les outils qui existaient versus ce que Nessus a apporté, pour moi, c'est un bombe parce que les autres étaient d'une complexité et d'un rendu inintéressant et exigeaient beaucoup trop d'efforts pour arriver à un résultat probant quand Nessus est arrivé beaucoup plus simple et avec les plugins et avec la capacité de contribuer aussi qui était plus simple parce que développer le plugin n'exigeait un peu moins de connaissances que d'aller jouer dans Satan et de commencer à aller faire des choses un peu plus obscures. Donc, entre les deux, ça a permis ça s'est monté en puissance. Là. Et ensuite, le Tenable nécessairement, parce qu'à un moment donné, il faut avoir de l'argent pour vivre. Là, La vie n'est pas gratuite. Là.
C'est le... Donc, c'est vrai. Donc, j'ai fait Tenable. On ne va pas en parler très longtemps, mais Tenable, rapidement, donc ça a été quand même presque 20 ans de ma vie. Et donc Tenable en gros a pris Nessus et on l'a mis au niveau entreprise. Donc en fait, au lieu de scanner la DMZ, comme on appelait ça à l'époque, on scanne toute l'infrastructure digitale. On a fait d'autres produits, on a fait de la gestion d'une vulnérabilité dans le temps, plein de choses. Ça a été une super expérience. Et donc, oui, donc comme tu me disais, enfin, comme je disais, j'ai quitté Tenable il y a 5 ans. Et la première chose que j'ai fait après avoir quitté Tenable, c'est que je me suis remis à vraiment faire de la technique. En fait, s'il y a une chose que j'ai appris, une leçon que j'ai tirée de Tenable, enfin j'en ai tiré beaucoup, mais une qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'en fait Tenable, donc la société a grossi, il a fallu, on m'a dit, ah Renaud, faut que tu deviennes plus stratégique, arrête d'avoir les mains sur le clavier, machin, de manager. Et en fait, je suis passé d'une compréhension viscérale de la technologie à une compréhension qui était juste intellectuelle. Et en fait, et surtout en cybersécurité, je trouve qu'il y a, un delta énorme entre les deux. Parce que c'est une chose de comprendre intellectuellement. Le Kubernetes, par exemple, bon, ok, orchestration de containers, c'est bien. Mais quand on commence à le faire tourner, quand on voit les détails, quand on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, les points de friction, les manques de visibilité, c'est là qu'on trouve des problèmes de sécurité. C'est là qu'on a des idées de produits qui pourraient améliorer la solution, etc. Et donc, je me suis remis à faire de la technologie. Et par chance, peu après avoir quitté Tenable, ChatGPT est arrivé. Et donc du coup, ça m'a permis de non seulement refaire de la technologie, faire de la technologie moderne, et d'être épaulé par un assistant qui, tous les 3 mois, devenait de plus en plus intelligent.
Oui, c'est intéressant. J'aime ça, le fait que tu le mentionnes, le delta. Le delta est très important à bien des égards. Puis c'est important d'aller jouer... En France, c'est les mains dans le cambouis, là, mais d'aller jouer, de vraiment d'aller se battre sur le terrain, d'aller sentir l'odeur de la terre pour de vrai, parce que c'est à ce moment-là qu'on découvre effectivement des problèmes d'implantation qui sont généralement des problèmes de sécurité ou peuvent aller plus loin. Je pense qu'on a besoin plus que jamais, puisqu'on a, j'ai l'impression, abandonné depuis... C'est drôle, le timing est à peu près le même, à peu près depuis 2020, donc de 6-7 ans. On a, pour beaucoup de personnes, abandonné ce chemin-là. On est dans un chemin beaucoup plus théorique, intellectuel. On n'a pas joué avec l'outil. Donc, on prétend connaître des choses sans avoir le vécu. Il dit que c'est essentiellement connaître le chemin et marcher le chemin, deux choses. C'est un peu dans le même esprit. C'est important de marcher le chemin parce que les gens qui ne l'ont jamais marché ne comprennent pas la souffrance de marcher le chemin. Et donc, les embûches qu'on peut rencontrer, comment on fait pour se dépêtrer de ces 10 embûches-là?
Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, je trouve que si tu ne marches pas le chemin, comme tu dis, tu ne peux pas développer...
C'est de l'anglicisme, vraiment.
I know.
Bref.
Mais si tu ne le fais pas, tu ne peux pas développer d'empathie pour les problèmes de tes utilisateurs. Et d'ailleurs... C'est une petite pique que je ferai à l'industrie de la cybersécurité de manière générale. Je trouve qu'on est une industrie qui va avoir tendance à faire beaucoup de leçons, qui va donner beaucoup de leçons aux ops, mais qui n'ont pas d'empathie. Donc c'est facile de dire, t'as qu'à tout patcher. C'est facile. Mais pour les gens qui le font sur le terrain, qui disent, c'est une machine critique, ça va couper du service, etc., forcément, c'est très différent. Tout ça pour dire. Que j'ai refait de la technologie, j'ai refait de la technique, je me suis remis à coder, j'ai fait plein de projets pendant des années chez moi, en interne, etc. Puis je me suis un peu reposé parce que j'en avais besoin. Et récemment, je me suis remis à faire de l'open source. Et en fait, l'histoire, c'est un peu débile, Je ne sais pas si tu as ça au Canada, mais je reçois très souvent des scams par SMS pour des offres de crédit, des lignes de crédit. Hein, avec des...
Ouais, dans sensiblement les mêmes scams qu'aux États-Unis, puisque nos systèmes sont relativement proches, contrairement à ceux en Europe. Les scams européens ne sont vraiment pas sur le même template, le même gabarit que ceux qu'on a autant au Canada qu'aux États-Unis. C'est pareil. Là, au-delà du fait que maintenant, sont capables d'écrire dans un français impeccable, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Là. Tu parlais de ChatGPT, ça l'a donné cet avantage-là maintenant que ces scammers-là sont capables de savoir que mon numéro de téléphone est localisé au Québec. Donc, parler dans un français qui est même adapté au français québécois, c'est même pas du français de France en plus. Donc, ils sont vraiment rendus, mais on est dans le même financier Amazon. J'ai pas payé mon payage, j'ai pas. Bref.
Oui, et moi, ce que je reçois beaucoup, c'est des offres de lignes de crédit disant, tiens, on peut te prêter 100 000 $ et puis tu nous rends 120 000 $ trois semaines plus tard. Alors, je te laisse calculer les taux d'intérêt. Et en fait, j'en ai reçu beaucoup. Je me suis dit, j'aimerais savoir qui sont ces gens. Et je demande à Claude de faire un site web, du reverse phishing, qui en fait capture tout le metadata possible sur le browser web. Et en fait, je le teste. Puis je me rends compte que, en fait, mon browser web, il leak vachement d'informations. Et quand moi je reçois des liens à cliquer, j'ai beau me mettre, à part si je suis dans une VM, en fait, je me dis, il s'est peut-être passé quelque chose. Et en fait, je me suis souvenu d'une société dans les années 2010 qui s'appelait Bromium. Je ne sais pas si tu te souviens.
Oui, ça me dit ça, mais ça, c'est des sociétés d'idées nouvelles à une époque où on n'était pas prêt à ces idées-là.
Exactement. Et Bromium, pour ceux qui ne se souviennent pas, ils avaient inventé un concept formidable. Ils mettaient en fait Internet Explorer dans un hyperviseur sous Windows. Ça ressemblait, d'un point de vue utilisateur, on avait l'impression que c'était une application native, mais en fait, ça se tournait dans une VM. Donc en fait, d'ailleurs, ils avaient fait une présentation qui m'avait beaucoup marqué, parce qu'en fait, ils avaient une tagline qui était « ça sert à rien de patcher ». C'est fini de patcher, parce qu'en fait, même si Internet Explorer se fait avoir, vous fermez la fenêtre et vous avez un environnement tout neuf. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire pareil. Et donc, j'ai pris Claude, parce que j'ai break-up avec ChatGPT. J'ai pris Claude et je lui ai dit, fais-le pour Mac. Fais-moi un émulateur qui fera tourner. Alors d'abord, j'ai essayé avec Safari. Ça n'a pas très bien marché parce qu'en fait, macOS s'émule très mal. Et donc, je suis passé sous Linux. Et je lui ai fait faire une application complètement... Enfin, ça ressemble sous macOS, ça ressemble à une application macOS. T'as une impression complètement native, donc c'est Chromium. Et tu as le contrôle sur tout. T'as le contrôle sur est-ce qu'on peut downloader des fichiers, uploader. Et j'ai fait beaucoup de travail d'intégration. Donc, par exemple, si t'actives le upload de fichiers, le drag and drop fonctionne entre le Mac et la VM. Donc, d'un point de vue utilisateur, tu te rends pas compte que c'est une VM. Mais t'as une sécurité entre guillemets absolu, bon, c'est jamais absolu, mais c'est assez tight. J'ai fait plein de choses, parce que du coup, il a fallu faire le support de webcam, etc. Enfin, j'ai demandé à mes collègues Claude, Jean-Claude, Claudine, Claudette de le faire pour moi. Et j'ai même fait une partie serveur, c'est-à-dire en fait, en mode entreprise, si tu veux, il y a un use case qui est très commun, qui est... tu dois faire auditer tes comptes par un contracteur externe. Il va avoir son propre device pour accéder à ton Salesforce ou quoi que ce soit, ou ton NetSuite, et tu n'as pas le contrôle sur sa machine. Et en fait, l'idée, c'est on peut lui imposer d'utiliser ce web browser-là, qui va streamer dans le cloud toutes les opérations qu'il fait. Donc on va pouvoir voir ce qu'il fait. On peut bloquer des choses comme on peut bloquer l'impression, bloquer les screenshots, bloquer le download, l'upload. Et voilà, j'ai fait tout ça. Et en fait, c'est une sorte de grande expérimentation. Ça s'appelle donc Bromure, parce que jeu de mots sur Bromium, hein, bromure.io. Et en fait, c'est une espèce de grande expérimentation live pour moi de fonctionner comme si j'étais une entreprise. Donc, si tu vas sur bromure.io, là, on a deux produits maintenant, parce qu'il y en a un, j'en parlerai après, qui fait du coding agentique. Il y a des blogs, il y a des news, la documentation, c'est multilingue. Et en fait, je regarde jusqu'où ça peut aller. Et c'est juste moi et Claude.
Donc, c'était la reprise d'un projet open source, le mettre au goût du jour. Puis, de toute façon, j'aime beaucoup cet esprit-là parce que le navigateur jetable, le browser jetable, est une notion que je trouve qui est essentielle, qu'on a oubliée à travers le temps, parce qu'effectivement, Bromium m'a amené de ces idées-là. qu'on reprend un peu avec les notions de Kubernetes, notamment, on arrive avec le fait que les images sont éphémères, donc elles se détruisent et se recréent constamment, donc il n'y a plus de suite. Et notamment d'avoir un navigateur qui vit dans un univers comme celui-là, mais qui n'est pas dans un tail, par exemple, où ça prend une VM qu'on charge, qui est longue, qui est un frein à l'adoption pour la majorité des gens, essentiellement, là, parce que les gens n'iront pas jusque-là. De pouvoir l'intégrer dans le réel, c'est bon. En plus, tu intègres tout le volet télémétrie qu'on va retrouver dans des EDR. Donc, essentiellement, toute la télémétrie de navigation contrôlée par une unité centrale qui va s'assurer que pouvoir retracer s'il y a lieu ou intervenir en temps réel dans le navigateur puis éviter d'avoir une attaque qui est en lieu. Et je trouve ça même un peu mieux que les produits qu'on a sur le marché actuellement, qui sont essentiellement des gros CASB qui font ça, mais de façon centralisée et non individuelle et atomisée. Et donc de distribuer la protection sur tout le monde.
Mm-hmm. Ouais, tout à fait. Et en fait, ce que tu dis sur l'IDR, c'est un très bon exemple parce que déjà, premièrement, le browser web aujourd'hui, c'est le point d'entrée en entreprise. Enfin, en fait, quand tu réfléchis, un browser web, c'est quoi ? C'est un programme qui, c'est une VM, enfin, au sens bytecode. C'est un parseur qui va exécuter du code venant d'Internet directement. Et la seule sécurité, c'est de dire oui, mais le JavaScript qu'il exécute ne peut pas faire ce qu'il veut sur la machine locale. Enfin, il y a quand même une énorme surface d'attaque.
Jusqu'à un certain point, parce qu'il y a quand même des avantages importants à lui permettre un peu de faire n'importe quoi. Là.
C'est ça, et ça s'ouvre un peu, on commence à... Bref. Enfin, premier point, donc, c'est le browser le plus attaqué. Deuxième point, même si le browser est complètement sécurisé, c'est le phishing qui est le point d'infection. Aujourd'hui, en fait, si tu regardes à haut niveau, on a fait globalement un bon boulot en cybersécurité. Globalement, c'est difficile de pénétrer dans une grosse entreprise par l'extérieur, en direct. C'est beaucoup plus facile d'envoyer 600 emails à des employés en espérant qu'il y en ait un qui... Donc le phishing, c'est un vrai sujet. Et typiquement, en entreprise, quelqu'un clique sur le mauvais lien, fait une bêtise, il va voir l'équipe sécurité lui dit « Bon, bah, qu'est-ce que tu as fait ?» Il va toujours dire « Oh, rien, j'ai juste cliqué sur le lien et c'est tout !» Et t'as pas mis de mot de passe, t'es sûr? Parce que ton compte, il y a des comportements bizarres depuis 10 secondes. Non, enfin, peut-être, je sais, mais c'était Google. Enfin, et en fait, le fait qu'il n'y ait pas de audit trail, de log, en fait, c'est assez... c'est très handicapant pour les équipes de sécurité.
Ah, énormément. Et du fait que l'utilisateur, effectivement... L'exemple, il est typique où il n'est jamais responsable de rien ou il n'a pas compris ce qu'il a fait. Ça aussi, c'est l'autre aspect parce qu'on a tendance en cyber, puis donc tu parlais justement des pics, ça en a un autre, on fait porter l'odieux de l'erreur à l'utilisateur final qui n'a aucune habilité, puis qu'on essaie d'entraîner comme un animal de cirque à reconnaître des choses qui sont éphémères parce que les attaquants vont changer au gré des besoins. Donc, d'avoir un outil qui vient aider l'utilisateur et aider les équipes TI à agir de façon correcte justement pour éviter ces situations ou au moins les maîtriser un peu mieux que ce qu'on fait présentement. Là.
Je suis tout à fait... En fait, tu vois, par exemple, moi, je trouve que toutes les solutions de training contre le phishing, c'est un cop-out de la part de l'industrie de la cybersécurité. Déjà, globalement, je trouve qu'un gros reproche qu'on peut faire à notre industrie, c'est qu'on est un peu arrogant, il faut le dire, et les bas problèmes de gens qui se sont fait avoir, on s'en est pas trop occupé, en fait. On préfère s'occuper des pirates qui viennent de Russie, qui utilisent des 0D, ça c'est plus excitant. Mais je trouve que dans un monde aujourd'hui où on peut avoir une vidéo quasiment temps réel du CEO de la boîte qui t'appelle en vidéo WhatsApp, qui dit « Oh là là, je suis coincé dans un camion, là, il faut que tu me donnes de l'argent. » On fait le virement et ensuite l'équipe IT fait « Bah, t'avais fait la formation quand même, tu t'es fait avoir. » Je veux dire, c'est pas du tout viable, c'est pas une solution. Et je trouve que le phishing, on a abandonné l'idée d'avoir une solution technologique. Alors qu'en fait, il y en a. Et donc, par exemple, dans Bromure, il y a tout un module désactivé par défaut de plugin anti-phishing qui va utiliser un LLM. Donc en fait, on va avoir la description de la page qui va être streamée sur bromure.io. Et un LLM va dire cette page, ça parle de support Apple, mais l'URL, c'est clairement pas Apple, c'est suspect. Et je pense qu'on peut faire beaucoup, beaucoup mieux. Là, c'est vraiment parce que c'est un truc open source. Mais c'est un vrai, vrai sujet. Et je pense que c'est le... En fait, quand il réfléchit, je trouve que le phishing, ça reste un green field assez énorme en cybersécurité parce que tout le monde s'est dit, bah, il y a des formations et on a résolu le problème.
Mais oui, et sachant que l'humain est faillible, là, on parle, on bascule, on va projeter ça sur l'utilisateur qui n'est pas connaissant. Et même les utilisateurs qu'on pourrait dire connaissants vont se rattraper par ça parce qu'on est distrait, parce qu'on a une surcharge cognitive, peu importe la situation, va nous exposer. Expose tout le monde et on a juste, comme tu le mentionnes très bien, abandonné avec, bah, on vit, c'est un malheur qui est là et on ne fout rien avec parce qu'on est largué finalement. Comme technologue, on ne comprend pas comment régler le vrai problème associé à ça. J'aime bien l'idée d'envoyer la page en vérification, disons, je suis dans un LLM, parce qu'il y a beaucoup, notamment des campagnes de phishing, mais les attaquants le font aussi, c'est-à-dire d'utiliser soit des lettres d'un autre alphabet pour visuellement tromper l'humain, parce que c'est ça l'objectif, tromper l'humain visuellement et le laisser sa garde descendre, parce qu'on a comme l'exemple avec Microsoft, avec un RN collé, va donner l'impression du M de Microsoft quand on le regarde avec des yeux d'humain. Les yeux de la machine le voient que c'est un R et un N, et donc va être capable de dire « Hey, t'essaies de rentrer sur Microsoft, mais ce que je vois comme site, effectivement, ce n'est pas celui de Microsoft qui est devant moi. » Ça en a un autre. Es-tu vraiment sûr de vouloir continuer à avancer dans ce chemin-là qui est potentiellement à risque?
Oui, complètement. Sinon, c'est un... plein de choses à faire. Donc, bon mur, c'est assez intéressant. Moi, j'apprends beaucoup. Donc, j'apprends le pouvoir des LLM. J'apprends... C'est un peu mon premier logiciel, entre guillemets, B2C, parce que la partie endpoint, c'est un browser web. Donc, c'est B2C qui est très compliqué. Parce que je pense que c'est plus simple de faire changer les gens de religion que de leur faire changer de browser web. Et ce qui avait tué Bromium, c'était la performance. C'est-à-dire que Bromium, ça fonctionnait bien si tes pages web, c'était du Excel, en gros, quoi, enfin du statique. Mais dès que tu mettais une vidéo YouTube, c'était fini. Donc en fait, Bromure, j'utilise toutes les API possibles et inimaginables, Apple, GPIO, etc., pour essayer de fluidifier. Et alors, ça rend pas mal. Tu vois, tu peux regarder du YouTube en 1080p. C'est utilisable. Ça reste toujours, et on pourra y rabattre jamais solution, mais un cran plus lent qu'un Safari natif qui va peindre directement dans le GPU parce qu'on passe par trois couches. Mais globalement, ça reste très utilisable. Donc, c'est un super projet. Enfin, j'en suis très content.
C'est très intéressant. Puis, de toute façon, je l'apprends en temps réel. Fait que moi, je trouve ça super plaisant. Je vais aller faire mon tour dessus parce que c'est le genre... De logiciels et genre de projets qui m'intéressent parce que ça l'amène une combinaison d'idées un peu plus anciennes comme Bromium et le mettre au goût actuel et ça l'insère aussi du LLM qui est un outil qui est fantastique pour beaucoup de choses, notamment pour nous donner un appui fort pour nous aider à démasquer des choses. En même temps, les attaquants l'utilisent pour faire du prompt injection, mais dans ce cas-ci, comme on prompt injecte les humains avec des visuels trompeurs, bien, le LLM fait l'effet contraire, donc nous aide comme humains de déceler ces choses, mais c'est un projet GG.
Complètement.
C'est très, très, très intéressant. Et tu mentionnes justement, tout remonte vers ça, donc c'est un projet B2C. Comment, comme utilisateur, je peux voir ou participer ou utiliser les signaux qui sont remontés et comment tout ça se matérialise?
Alors, en fait, tu as plusieurs solutions. Alors, aujourd'hui, en fait, j'ai la partie cliente est complètement open source. La partie serveur ne l'est pas encore. Pas par stratégie, mais plus parce qu'en fait, packager, c'est compliqué. Et c'est encore en devenir. Tu vois la partie. Mais en revanche, tu peux avoir un accès complètement gratuit, parce que tant que j'ai pas beaucoup d'utilisateurs, ça me coûte rien, donc j'offre ça. Mais donc, regarde sur bromure.io, puis il y a le GitHub qui va avec. Et donc, j'ai commencé avec le browser web. Et ensuite, j'ai fait un deuxième module qui part du même principe de cloisonnement. Et ça, c'est pour, je vise les développeurs qui veulent utiliser Cloud. Et en fait, si tu regardes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en cybersécurité? C'est tout le supply chain attack. Gros, gros problème. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, en gros, je suis développeur, je télécharge un package via NPM le plus souvent, parfois c'est un package Python. L'auteur a été piraté et le package va prendre toutes mes variables d'environnement qui contiennent mes clés, mes tokens d'authentification OpenAI, mon fichier de configuration Kubernetes, mes clés SSH, etc. Et en fait, du coup, et les développeurs, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de sandbox. Il y a beaucoup de sandbox qui existent hein, pour Claude, etc. Mais ils font ce que j'appelle de la sécurité punitive. C'est-à-dire, tu regardes la sandbox de NVIDIA pour OpenClaw, bah, par défaut, toutes les adresses réseau sont bloquées, sauf celles qui sont whitelistées. Donc en fait, on rend l'outil moins intéressant. Et les développeurs, ils veulent expérimenter, ils ont besoin d'expérimenter, ils veulent une machine sur laquelle ils sont complètement admin, ils veulent pas 40 outils de sécurité qui les ralentissent. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une autre VM, même principe, hein, qui installe un Linux complet, on est root dessus. Mais la différence, c'est que tu vas configurer du côté hyperviseur tous tes tokens, toutes tes clés SSH, etc. L'hyperviseur va générer des faux tokens et des fausses clés SSH qu'il va mettre dans ta VM. Il fait du man in the middle. Donc, il observe tout le trafic qui sort de ta VM et à la volée, hop, il remplace le faux token par un vrai token. Ce qui fait qu'en tant que développeur, tu télécharges un package vérolé, tu te fais avoir, il vole tout. Aucun token, tu n'as aucun identifiant sur ta machine. Il n'y a rien à voler. Il n'y a que ton code source, à la rigueur. Et en fait, ça permet d'avoir de fournir en fait en entreprise un environnement aux développeurs en disant « Ok, fais ce que tu veux, tant que tu le configures bien. » Et l'outil va aussi faire des alertes en disant « Attention, tu as mis un vrai token. » Si jamais le développeur n'a pas la discipline de le configurer proprement, l'outil va faire une alerte. Il va aussi demander à la volée, il va dire « Attention, là, est-ce que tu veux vraiment utiliser ton token SSH ou quoi que ce soit, enfin ta clé SSH ?» Et j'ai rajouté la semaine dernière, là aussi, la possibilité de rajouter des droits sur les clés, parce qu'en fait, encore une fois, les développeurs, ils ont un boulot, c'est de faire du code. Ils ne sont pas admin système, il n'y en a pas beaucoup que je connais qui ont la discipline de dire « Ah bah attends, là, quand je vais développer, je vais me faire une config Kubernetes qui a que des droits read-only. » En plus, sur Kubernetes, on y passe l'après-midi. Hein. Et puis ensuite, quand je serai en projet, non, ils ne font pas ça. Ils ont le truc admin, ils ont accès à tout. Et en fait, du coup, bah, comme on fait du man in the middle, on intercepte les appels Kubernetes, on appelle les appels GitHub, etc. Et au niveau de la config, tu vas pouvoir dire bah, « Non, je veux que ce soit read-only. » Et toutes les opérations destructives, on les bloque.
C'est super intéressant, puis c'est un peu comme pour le navigateur, c'est le même principe, c'est qu'on dégage la responsabilité de l'utilisateur ou le développeur en l'occurrence. On lui permet d'agir le plus librement possible pour maintenir soit l'expérience utilisateur, soit sa capacité d'aller vite, parce qu'ils ont ce goût-là de vélocité qui est très, très grand. Donc, on leur retire aucune vélocité, mais on leur empêche de se blesser au passage et de faire justement trop de droits ou des accès où ils se font attraper, puis c'est inévitable. On regarde les dernières choses de supply chain qui ont eu lieu et c'est assez violent et c'est des projets qui sont quand même assez majeurs qui se sont fait prendre au passage justement parce qu'ils ont installé des packages qui ont été vérolés, que les clés ont remonté et le fait que ces clés-là ont remonté ont permis aux attaquants de propager encore beaucoup plus loin leurs attaques. Donc, retirer toute cette capacité-là, tout en leur permettant de travailler, c'est fantastique de mettre cette couche d'abstraction-là qu'on est dans la matrice finalement, on est dans un peu dans l'illusion. Là.
Et en fait, tu as parfaitement articulé mieux que je l'aurais fait, ma manière de penser, donc je suis très content. Non, et en fait, ce qui est aussi très intéressant, ce que j'ai remarqué, parce que le point commun entre Bromure, le web, où en fait, là j'utilise toutes les API d'instrumentation de Chrome pour voir ce qui se passe. Et Bromure Agentic Coding, comme il s'appelle. Où là, je fais un vrai proxy qui fait du man in the middle. C'est qu'en fait, j'ai réalisé que on a tendance à sanctifier les flux SSL. En disant, ah non, ça, il ne faut pas voir ce qu'il y a dedans. Et en fait, c'est le point. Enfin, c'est quand ils réfléchissent, c'est incroyable parce qu'on t'observe tout ce qui se passe sur une machine. Quand tu as un EDR, tu vois absolument tout. Mais on va quand même pas regarder le trafic qui sort. Et c'est ridicule. Et en fait, une fois que tu commences à regarder quand tu fais du man in the middle là, avec l'agentic coding, tout à coup, t'as un univers qui s'ouvre. Parce que là, la prochaine étape que je veux faire, c'est quand tu télécharges des paquets NPM, avoir une politique possible disant non, les paquets latest, tu les prends pas. Parce que c'est souvent les latest qui sont piratés. Donc on pourrait le bloquer facilement. On pourrait même analyser le paquet NPM téléchargé, puis regarder à la volée. Enfin. Il y a un univers du possible qui s'ouvre, mais comme tu dis, qui se fait sans punir l'utilisateur.
Oui, de la même façon. Puis effectivement, juste la partie sur le SSL, c'est un dogme, comme beaucoup d'autres dogmes qu'on aurait intérêt à re-questionner, puisque ça, oui, dans certaines occurrences, dans d'autres, non. Et pour revenir à l'utilisateur ou au développeur, toute cette capacité de faire ce travail pour lui, c'est un peu aussi comme les véhicules qu'on a maintenant. On ne sait pas comment le moteur à combustion ou le moteur électrique fonctionne dans nos autos. C'est délégué aux ingénieurs automobiles qui ont une expertise très, très grande là-dedans. Et tant mieux d'ailleurs qu'on ait une expertise très grande là-dedans, parce que ça fait de très beaux véhicules. Même chose pour les télévisions, même, peu importe ce qu'on a. Quand on les utilise, on ne veut pas se poser la question, est-ce que je dois faire attention? Est-ce que je vais désactiver ma caméra sur ma télévision? Comment je vais faire les choses? Je ne me pose pas de questions. J'ouvre ma télévision. Je veux écouter Netflix. C'est tout. C'est là où je veux arrêter toute mon utilisation. Et donc, de faire la même chose pour des choses qui étaient spécialisées. Puis qu'on essaie d'imposer aux développeurs. Il faudrait que tu fasses du DevOps, il faut que tu sois inséré, il faut que tu sois capable d'opérer tes Kubernetes, il faut que tu sois capable de faire tout seul. Dans le fait, la personne est faite pour faire du code. C'est ça qu'elle a, mais restant ne l'intéresse pas.
Oui, c'est ça, c'est son travail. Et pour ton analogie de la voiture, par exemple, elle est très bonne parce que je trouve qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est un peu. Si on faisait la même pour la voiture, c'est ah bah non, t'as accéléré trop vite. Non, on l'accepterait pas pour les voitures, mais c'est un peu ce qui se passe en informatique. Bah, t'as pas mis à jour, c'est forcément de ta faute. Vraiment, enfin, je veux dire, le bug, il aurait pas dû être là. Donc, non, c'est un vrai sujet. Et pareil, tu vois, moi, j'ai passé 30 ans à évangéliser les gens sur le fait qu'il fallait déployer des patchs, de les correctifs très vite. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dès que j'ai arrêté Tenable, alors j'étais très discipliné, hein. Et en fait, quand j'ai été Tenable, tout à coup, j'ai été surpris de la vitesse à laquelle j'ai let go, entre guillemets, tu vois. Où je me dis, bon, finalement, c'est pas très intéressant. Oui, il faut que je mette à jour. Moi, j'ai pas le temps, je ferai ce soir. Alors qu'avant, c'était vraiment, attention, nouveau macOS, je le fais maintenant. Et oui, parce qu'en fait, dans le monde réel, en fait, dans le monde de la cybersécurité, je pense qu'on. Je sais pas si c'est une déformation génétique ou quoi que ce soit, mais. On est une sorte de, on ressent un bien-être quand on a une machine patchée carrée, mais pour les non-experts, je pense que ça leur fait rien.
Oui, au même titre que faut de maintenant mettre nos télévisions et nos autos doivent être mises à jour. On a des firmwares à appliquer. Puis si c'était pas parce qu'on a un entretien régulier au garage avec notre auto, on la mettrait jamais à jour l'auto de toute façon parce qu'on n'a aucun intérêt. Ça intéresse personne. Puis c'est un peu, je pense. L'erreur qu'on fait, pour une raison obscure, c'est qu'on croit que les gens sont aussi intéressés que nous à ces choses-là qui sont très, très nichées dans l'absolu. Je veux dire, personne, ça les intéresse de savoir que ça a été à jour ou pas. Là.
Ah, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai une Rivian. Et alors, en plus, Rivian, alors là, ça y est, c'est enfin corrigé, mais en plus, leur update, c'est un peu un pas en avant, un pas en arrière. Donc, ça corrige un bug, mais ça en rajoute un nouveau. Et en fait, c'est insupportable. Surtout pour des équipements embarqués. Enfin, tu vois, moi, je me souviens, j'avais la première Apple Watch. Et quand ils ont sorti WatchOS 2, je ne sais même pas si ça s'appelait WatchOS à l'époque, en fait, ils ont changé les gestures. En fait, je me suis dit, mais attends, on marche sur la tête. Il faut réapprendre à utiliser sa montre. On est où? Du coup, j'en porte.
C'est un bel exemple de ça. On va terminer là-dessus, c'est super intéressant. J'allais faire mes devoirs, j'allais voir effectivement ces projets-là, puis peut-être même y contribuer, parce que de temps en temps aussi, j'aime ça remettre les mains dans le réel, puis ça c'est retoucher à de l'herbe humide ou retoucher à l'odeur de la terre humide qui est fraîchement de la pluie. Ça nous ramène sur le cas du réel. Merci énormément pour ce partage-là, c'était super intéressant cette conversation-là.
Merci de m'avoir reçu, puis j'attends tes pull requests.
Le défi est lancé.